Et si le cannabis entrait dans nos mœurs sans même que nous nous en apercevions, alors que le cannabis légal, celui qu'on appelle CBD avec moins de 1% THC, remporte un énorme succès depuis qu'il est en vente dans nos commerces, c'était tout récemment, au mois de février. Plusieurs projets pilotes autour de l'usage récréatif du cannabis sont sur le point d'aboutir dans les cantons de Berne, Bâle et Genève. Et puis à côté de ça, nous avons l'association Legalize It qui a déposé ce printemps le texte d'une initiative pour la légalisation du cannabis auprès de la chancellerie fédérale. Un sondage GFS révélait d'ailleurs la semaine dernière que 2/3 des Suisses seraient favorables à cette légalisation. Notre invité ce matin est un médecin, chef du service d'addictologie des HUG, Daniele Zulino. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Genève pour aborder cette thématique du cannabis qui est complexe. Hein, et puis on va essayer d'être un peu pédagogue entre cannabis récréatif, cannabis légal, cannabis illégal. Quels sont les effets sur la santé? On va le voir avec vous. Et là aussi, les études se contredisent parfois. Ce sondage, j'en parlais, on va peut-être commencer là-dessus. 2/3 des Suisses qui seraient favorables à la légalisation du cannabis, s'il restait toutefois interdit aux mineurs, aux moins de 18 ans. Est-ce que ça vous semble plausible? Est-ce que ça vous semble correspondre à la réalité aujourd'hui?
Ça ne m'étonne pas trop, vu les développements dans d'autres pays. Rappelons qu'il y a plusieurs pays, comme l'Uruguay ou plusieurs États aux États-Unis, qui ont déjà fait le pas d'une régulation du cannabis. Donc, le monde change, même les États-Unis s'y mettent.
Ça change très vite, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on était totalement défavorable. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les vents ont tourné si vite en Suisse?
Alors, je pense qu'un des facteurs est la présence massive du cannabis dans nos rues. Rappelons que...
C'est un principe de réalité, en fait, c'est ça.
C'est un principe de réalité. Les gens fument, une grande partie des gens ont déjà essayé de fumer au moins une fois dans leur vie. Il y a de l'expérience, on s'aperçoit que peut-être la régulation actuelle ne correspond pas tout à fait à la réalité.
Presque 40% des moins de 35 ans ont déjà consommé du cannabis chez les hommes. Hein. C'est un peu moins chez les femmes. Vous confirmez ces chiffres?
Hein. C'est ça, oui.
Si on votait demain, si les Suisses votaient demain, ce serait oui, selon vous. Alors, vous n'êtes pas politologue, vous êtes médecin, mais vous pensez que, fort du constat qu'on est en train de faire, les gens accepteraient la légalisation ou la régularisation?
Ça, je ne saurais pas dire. Alors... C'est vrai que moi, je préfère le terme de régularisation. L'idée, aussi des projets qui vont être proposés, n'est pas une légalisation dans le sens donnant libre accès, comme au yogourt, à la population, à n'importe qui. L'idée est de mettre des règles qui actuellement n'existent pas, à part l'interdiction. Donc, des règles du type, on définit qui a accès, à quelle heure, à quel moment, à quel endroit. Donc, des régulations comme on a déjà pour l'alcool ou pour le tabac.
Oui, on ne trouverait pas son petit cannabis à la Coppola à Migros, pour parler clairement.
Exactement.
Est-ce qu'il y aurait, selon vous, une augmentation de la consommation du cannabis si on régularisait en Suisse?
Alors, les projets de recherche qui vont être proposés ont comme question celle-là aussi. En même temps, on a des petites expériences, Uruguay et les États-Unis, surtout le Colorado, qui nous montrent qu'il peut y avoir une légère augmentation durant les premiers mois. C'est toujours la découverte de ce produit. Et une stabilisation, voire une réduction par la suite. Ce qui est assez intéressant au Colorado, on n'a pas seulement observé cette stabilisation et réduction du cannabis, on a surtout observé une forte réduction de la consommation d'alcool et des excès d'alcool, voire des accidents liés à l'alcool.
Donc plus on fume de chanvre, moins on consomme d'alcool?
Ça, c'est un peu simplifié, mais les chiffres indiquent ça, oui. Mais,
et ça, il y aurait cette tendance-là en Suisse aussi, on pourrait le postuler, quoi.
On peut pas le savoir. C'est vrai que la Suisse n'est pas le Colorado.
C'est plutôt un pays vitivinicole, j'ai envie de vous dire, la Suisse. On a plutôt la culture du bon verre, etc. On lève le coude plus qu'on ne s'allume un pétard, même si ça a tendance à augmenter. C'est quand même un pays foncièrement vitivinicole, la Suisse, non?
Oh, je peux être d'accord en partie, mais il faut quand même aussi considérer que la Suisse, un peu comme les États anglo-saxons, a pris un virage vers d'autres boissons, surtout la bière. Donc la bière a progressé les dernières décennies. Je pense pas que cette tradition-là va avoir une telle influence.
Bon, question difficile, et je le disais en introduction, on a vu plusieurs études se contredire. Quels sont les effets du cannabis sur la santé, sur le corps humain? Là, je parle du cannabis avec un fort taux de THC. Qu'en dites-vous, vous, le médecin?
Alors, il faut tout de suite dire que c'est pas une substance anodine.
C'est une drogue douce ou c'est pas une drogue douce?
Je fais pas cette distinction. C'est une drogue qui induit des addictions. Ça, c'est assez clair. Il faut plus en douter. Des addictions sont possibles. On en traite chez nous. Maintenant, la question est-ce que ça a des répercussions comme par exemple le tabac? Là, les choses sont moins claires. On pensait longtemps que le cannabis puisse induire des cancers du poumon, plus ou moins, ou même pire que le tabac. Les dernières données ou les dernières analyses des données épidémiologiques nous montrent que c'est peut-être pas si vrai que ça, que le cannabis puisse même avoir un certain effet protecteur.
Attendez, je vous arrête sur ce point. Un effet protecteur, c'est-à-dire empêcher des cancers du poumon? Si on fume du cannabis, on pourrait prévenir des cancers?
Il y a des indicateurs dans des études animales et dans des études épidémiologiques qui montrent ça, oui.
Vous voyez l'importance du message qu'on délivre ce matin. Hein. Oui. Si on nous écoute, les gens vont se ruer. C'est délicat.
Alors là, c'est un côté. Rappelons-nous quand même que le cannabis peut faire des dégâts. Rappelons-nous que sous cannabis, on ne fonctionne pas. On ne pense pas droit. On a des associations relâchées. On peut avoir des hallucinations. Durant ces moments-là, on ne fonctionne pas. Si on fume durant le travail, on travaille mal. Ou pas du tout. Si on fume durant l'école, on n'apprend rien. Si on fume régulièrement, on perd du temps, ce qui a pu être montré dans des études épidémiologiques, on perd du temps de manière à avoir même des baisses de QI.
On parle même de cas de schizophrénie qui aurait été déclenchée par un abus de cannabis, qu'en dites-vous?
Ça, c'est pas clair du tout. Il y a des données qui montrent que le tabac pourrait faire la même chose et personne parle de l'induction de schizophrénie par le tabac. Ce qui est assez clair, que sous cannabis, on est plus psychotique que sans cannabis. C'est un peu l'effet recherché aussi. Donc, le relâchement des associations, des façons de penser à côté de la plaque. Sous cannabis, quelqu'un qui a une schizophrénie aura plus de symptômes qu'on appelle positifs, donc plus d'hallucinations, d'idées de délire, mais moins de symptômes négatifs, donc moins d'émoussements affectifs, de retrait social, etc.
Alors, on vous entend bien, vous n'êtes pas du tout en train de dédiaboliser la substance, mais de prôner une forme de régularisation. Ce n'est pas contradictoire, si on régularise, évidemment, c'est une porte ouverte, vous l'avez dit, on ne peut pas travailler, on ne peut pas conduire, on ne peut pas étudier correctement. La ligne est très très fine, là, hein. Vous le concevez comme scientifique, j'imagine.
Alors, la ligne est fine entre la consommation qu'on appelle récréative et la consommation problématique. C'est le cas aussi pour l'alcool. C'est pas le cas pour le tabac. Toute consommation de tabac est nuisible pour la santé. La régularisation, régulation, l'idée derrière est d'avoir une emprise sur les problèmes. Actuellement, il y a une forme de régularisation, c'est la prohibition absolue.
Mais ça ne marche pas, selon vous.
Voilà, elle serait bonne si elle marchait, mais elle ne marche pas. Du moment qu'une grande partie de la population consomme, ça veut dire qu'elle ne marche pas. Qui émet les règles actuellement? Ce sont les vendeurs et les consommateurs de cannabis. L'État, nous les médecins, on n'a actuellement pas le droit de définir une bonne consommation.
Non, mais vous pouvez effectivement parler de ce que ça peut occasionner, ce que vous nous faites ce matin à l'antenne. Alors, il est temps pour un cannabis légal. C'est un avis, alors là, c'est cannabis légal, hein, vraiment, c'est dit comme ça. C'est un avis à lire dans la presse alémanique, Sandra Timorli.
Un élan de pensée progressiste en Suisse. Suisse, des expériences positives à l'étranger. Pour la NZZ, les préconditions sont bonnes pour entamer une nouvelle tentative de dépénalisation. Et ce ne sont pas que les adultes adeptes de la fumette qui en profiteraient, mais aussi la police et la protection de la jeunesse. Parce que oui, avec les amendes d'ordre, les politiques ont bien essayé de créer un climat plus doux pour les consommateurs. On a pu le voir comme un progrès, mais au final, le système se révèle pour le moins poussif et laborieux.
D'accord avec ça, aujourd'hui, c'est poussif et laborieux, on n'arrive pas à trier le bon grain de livret. D'ailleurs, on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est du cannabis légal avec moins de 1% de THC, si c'est du cannabis illégal. Ça permettrait de résoudre tous ces problèmes?
Je pense que ça permettrait de s'attaquer au moins au problème. On va jamais résoudre tous les problèmes liés aux substances addictives. On le voit avec l'alcool qui est très bien réglementé. Il reste un certain nombre de personnes qui vont avoir des problèmes avec. Mais ça baisse aussi le seuil d'accès aux soins. Il est clair qu'avec une substance illégale, l'accès aux soins est toujours difficile.
Et il serait beaucoup plus facile avec une substance. Et oui, mais sur les termes, entendons-nous peut-être sur les termes, parce qu'entre dépénalisation, légalisation, régularisation, quelle est la différence au fond? Éclairez-nous, vous n'êtes pas juriste, mais médecin, mais non, Daniel Lezzolino, mais quelle est la différence?
Alors, dépénalisation, on parle normalement de dépénalisation si la substance reste illégale, comme c'est par exemple le cas au Portugal, mais les consommateurs
ne sont plus pénalisés.
Plus pénalisés, oui. Régularisation veut dire qu'on émet des règles de production, de vente, d'occasion de consommation. Rappelons aussi qu'actuellement, personne définit la bonne qualité du produit qui est consommé. Par contre, on le fait avec l'alcool. Il n'y a pas d'alcool frélaté en Suisse. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dans le cannabis. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les autres drogues.
Il y a beaucoup de cannabis frelaté en Suisse. On peut l'imaginer. On a parfois dit qu'il était coupé avec certaines substances chimiques, de la poudre de verre, etc. Ce sont des choses qu'on constate?
Alors, la poudre de verre, on n'en a plus entendu dernièrement, mais il est clair qu'il y a des herbicides dedans. Il y a énormément d'herbicides dedans. Il serait temps qu'on émette des règles du bon cannabis, comme c'est le cas pour le tabac.
Un herbicide dans une substance, ça, c'est pour le coup, c'est un peu cancérogène, non?
Absolument.
Oui. Il y a des projets pilotes en Suisse, on a dit Berne, Bâle, Zurich, Genève. Vous participez à celui de Genève. Quelles sont les informations qui vous intéressent dans les données que vous récolterez? Qu'est-ce que vous cherchez au fond dans ces projets pilotes et notamment à Genève?
Alors, il y a deux grands aspects, deux axes. Certainement, l'axe qui intéresse l'addictologue. Est-ce qu'il y aura un changement de type de consommation du moment qu'on a accès de façon régulée? Est-ce qu'il y aura une augmentation de la consommation, des doses, des concentrations préférées? Est-ce qu'il y aura éventuellement même une diminution des consommations problématiques, puisque on prévoit aussi des interventions de réduction de risque et de prévention. D'un autre côté, ce qui nous intéresse, qui intéresse surtout les sociologues, est-ce qu'il y aura un changement de la perception du produit des consommateurs dans l'environnement, dans la ville, dans le canton, et chez les consommateurs eux-mêmes? Est-ce qu'ils prendront conscience d'une autre manière de leur consommation?
Résultat, ils sont attendus pour quand?
Alors, pour l'instant, on est en train, dans certaines villes, d'élaborer des protocoles. On en a déjà soumis. Berne a déjà passé la commission d'éthique et a soumis son protocole à l'OFSP. On attend les réponses.
Un mot sur le cannabis légal, hein, ce fameux CBD avec moins de 1% de THC qu'on trouve dans les grandes surfaces aussi, dans les kiosques. Est-ce qu'il est vraiment si inoffensif que ça? C'est vraiment une petite consultation qu'on fait là avec vous, parce que beaucoup doivent nous écouter et en consommer. Est-ce qu'on peut prendre le volant en ayant fumer le cannabis légal? Est-ce qu'on peut mener une activité professionnelle dure tout à fait normale? Quels sont les effets de ce produit?
On en sait assez peu comparé au THC. Les études commencent. Alors, ce qu'il faut dire, que le CBD, donc le produit principal dont...
Cannabidiol, hein, je crois qu'on l'appelle ça
le
comme
cannabidiol,
ça.
Le cannabidiol, exactement. Est une substance assez intéressante. Et on a même essayé de le développer comme un traitement contre la schizophrénie. Vous voyez l'intérêt.
Oui.
Ça peut être un calmant. Vu que ça peut être un calmant chez certaines personnes, ça peut induire de la fatigue. Moi, je déconseillerais fortement de prendre le volant après en avoir consommé.
Ben voilà, un propos très clair. Dans le Colorado qu'on évoquait tout à l'heure, on a beaucoup mis en avant la manne financière que représentait le cannabis. Et nous y étions d'ailleurs pour des reportages l'année passée dans le cadre de la campagne américaine. Argument qui revient bien sûr aussi en Suisse, hein, l'argument de l'argent qu'on pourrait se faire avec ça. Il y a une proposition politique en date, celle des Jeunes Verts libéraux qui veulent dépénaliser le cannabis pour pouvoir le taxer et sauver l'AVS comme citoyen, plus que comme médecin. Qu'en pensez-vous ?
Je suis invité comme médecin, donc comme employé des UGS et de l'université. J'ai pas d'opinion politique.
Oui, enfin, vous avez une opinion que vous n'avez pas le droit de dire ce matin, c'est ça.
Alors, il y a des modèles... qu'on lit aussi dans nos journaux scientifiques qui indiquent que du moment qu'on peut taxer un produit, on peut avoir aussi un effet sur sa consommation.
Effet négatif, évidemment, ça va diminuer.
Voilà. On peut bien sûr aussi avoir des effets sur les conséquences négatives, ou bien les diminuer, ou bien les contrebalancer avec des investissements dans les institutions de traitement et de prévention.
Daniel Ezzulino, voilà provisoirement pour ce qui en est du cannabis. On a bien compris avec vous qu'il y avait une vague de fond, y compris politique, pour une régularisation, si ce n'est une légalisation un jour, parce que ça, c'est l'étape encore ultérieure. On a d'autres sujets sur lesquels on aimerait bien vous faire réagir, issus de la presse. Voilà, c'est des sujets qui ont trait aux médicaments et aux dons d'organes, notamment pour celui-là. Le plan d'action de la Confédération pour promouvoir le don d'organes va dans le mauvais sens. Sandra Timmerly, c'est aussi à lire dans la presse alémanique.
Chaque semaine, deux personnes meurent en Suisse par manque de dons d'organes. Le problème n'est pas nouveau, hein, rappelle l'Aargauer Zeitung. En 2013, la Confédération s'est fixée comme objectif d'atteindre 20 donneurs par million d'habitants d'ici 2018, contre 13 seulement il y a 4 ans. Un objectif qui sera largement manqué, note le journal. Selon le directeur de Suisse Transplant, ce ne sont pas les Suisses qui sont de mauvais donneurs que nos voisins, c'est le système. Les cartes de donneurs ou les nouvelles applications sur smartphone n'ont pas changé grand-chose. Suisse Transplant va donc, début septembre, relancer un appel pour un registre national des donneurs, ce que Berne a toujours refusé jusqu'à présent.
Ça aussi l'appel pour les dons d'organes, on a l'impression de voir passer ça chaque année, à juste titre. Pourquoi ça ne marche toujours pas en Suisse? Vous n'êtes pas chirurgien, mais enfin vous êtes médecin, ça doit évidemment vous interpeller. On a des téléphones portables, on a tout un tas de technologies maintenant qui fonctionnent très très bien, et pourtant on est encore en pénurie. Comment l'expliquer?
C'est que il y a toujours des fantasmes probablement derrière. On a le fantasme que le corps, une fois mort mort cérébrale, est abusé. Il y a des fantasmes éventuellement.
C'est quoi, c'est religieux, culturel? Ça vient d'où ça?
Alors, c'est certainement culturel. On s'occupe pas encore assez de cet aspect de la mort. Je pense que la discussion est assez utile. Après, je pense qu'il y a des autres modèles auxquels il faudra réfléchir. Il y a le modèle que, par principe, on est donneur d'organes. Une carte, elle indiquera plutôt l'opposition à cet acte que l'acceptation. C'est des modèles que je pense qu'il faudra continuer à discuter.
Alors on a aussi, toujours dans le domaine médical, le boom du tourisme d'achat des médicaments. Simon Corté dans la presse romande.
Deux pages dans 24 heures et la Tribune de Genève sur ces Suisses toujours plus nombreux à passer la frontière pour se procurer sirops, pilules et autres comprimés, même sur ordonnance. Voici Julie, cliente des pharmacies françaises. « De toute façon, en Suisse, dit-elle, avec ma franchise élevée, je ne serai pas remboursée. » Au fait, quelle différence par rapport au prix européen? Deux exemples de génériques, l'un contre l'acidité gastrique et l'autre contre le cholestérol. En Suisse, la même tablette coûte entre le triple et le quadruple du prix payé en moyenne dans une pharmacie européenne.
Comme médecin, qu'est-ce que vous pensez de ces Suisses qui vont aller acheter leurs médicaments moins chers en France voisine ou je sais pas, en Italie, en Allemagne?
La qualité des médicaments est la même dans nos pays voisins. Par rapport à ça, comme médecin, ça ne m'inquiète pas.
Vous ne les découragez pas. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une faille du système ? Ça, évidemment, on a tous des franchises, donc on se dit c'est tellement élevé que ça ne va pas nous rembourser. On va aller... c'est une faille du système, ça, non ?
C'est une faille du système, mais je pense pas en interdisant l'achat dans nos pays voisins qu'on va réussir à réduire les coûts de la santé en Suisse.
Vous avez comme ça en 30 secondes un moyen de réduire les coûts de la santé, Daniel Ezzulino. Vous n'avez peut-être pas été invité pour ça, mais enfin, quelle est l'idée force là ?
Arrêter de fumer.
Ah, ben voyez,
du tabac.
Arrêtez de fumer.
Tabac.
Du tabac, oui, le cannabis, on en parlait. C'est combien d'économies si les Suisses arrêtent de fumer, ce qui est évidemment utopique.
J'ai pas ça en tête, mais rappelons que c'est la première cause de mortalité et de morbidité évitable en Suisse.
Vous voudriez rendre le tabac illégal ?
Non, bon. Définitivement non.
Donc on arrête, comment ? On suggère aux gens d'arrêter ?
Absolument.
Oui. Ça, ce sera le projet d'une autre émission, on l'imagine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous êtes le chef du service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève, Daniel Ezzulino. Vous y étiez à Genève ce matin. On vous en remercie. Excellente journée.
Parfait. Merci.